Bonjour et bienvenue dans la Terre à boire. On se retrouve pour une nouvelle émission en Rhône-Sud, dans ce grand cycle d'émissions que nous réalisons en partenariat avec Inter-Rhône, qui promeut les vins des Côtes-du-Rhône. On est ravis aujourd'hui de parler d'un territoire qui nous tient particulièrement à cœur, dont on a parlé dès le début de ces podcasts. Ça s'appelle l'Irac, c'est sur la rive droite du Rhône. Pour en parler à côté de moi, Patrice de Fée, bonsoir.
Bonsoir.
Laurent Delceau, bonsoir.
Bonsoir.
Un grand amateur de l'Irak devant l'Éternel.
Tout à fait.
Et Valérie Auvertus, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, pour parler de l'Irak, pour dire tout le bien qu'on pense de cette appellation, pour goûter également deux vins de l'Irak, évidemment, un blanc puis un rouge, et pour parler donc de ce petit coin du monde, nous avons un invité. Bonjour, Grégory Sergent.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc vigneron à l'Irak. Le domaine s'appelle le domaine du Clos du Jas.
Ou du Tout à fait.
Clos du Jas.
Clos du Jas.
Clos du Jas. Hein. On prononce les S dans ce coin-là.
Oui,
je dis ça à tous les Parisiens qui disent qu'ils ont passé leurs vacances dans un mât en Provence.
Oui, c'est un peu pareil. Ouais.
Voilà, c'est un peu pareil. On dit masse. Voilà, avis aux amateurs. Grégory, alors, vous avez la particularité d'être un vigneron qui n'a pas encore de cuvée à proposer, parce que nos camarades Laurent et Patrice ont goûté des Lirac dans un restaurant exceptionnel. Vous allez nous parler de cette expérience, parce qu'ils en sont revenus avec les yeux qui pétillent. Mais en fait, vous êtes néo-vigneron, mais quand même, vous avez grandi dans une exploitation.
C'est ça, tout à fait. Après, bon, je suis la septième génération, mais je me suis installé hors cadre familial. Donc, j'ai choisi d'écrire ma propre partition. Voilà.
La famille, au départ, elle est installée à l'Irak aussi ?
Dans les costières de Nîmes.
D'accord.
Et pour des raisons personnelles et professionnelles, en fait, j'ai choisi de faire mon chemin de mon côté parce que je voulais avoir quelque chose qui me correspondait et pas reprendre quelque chose qui était déjà... on va dire formel quoi. Donc l'idée c'était vraiment de créer quelque chose de nouveau avec mes idées qui me sont propres et avec ma philosophie. Voilà.
Costière de Nîmes, on n'est pas loin. Alors, Patrice, toi qui as les yeux rivés sur la carte, l'Irak, parle-nous de l'Irak plutôt.
Ouais, l'Irak, bah d'abord c'est un cru qui est en AOC depuis 1947, donc c'est un des vieux crus du Rhône sur les 17 crus que compte le Rhône. On est juste en face, on est voisins et en face de l'autre côté du fleuve de Châteauneuf, avec beaucoup de caractéristiques communes. On a un peu moins de cépages, mais on a des galets roulés, on a des sables, on a le même type de sol, le même type de terroir et techniquement la même latitude et donc à peu près le même climat. Donc pour faire très caricatural, l'Irak a aussi c'est un 7-9 du pape moins cher. c'est très caricatural.
Mais on a les pieds dans le plat, mais direct.
Non, mais on a des caractéristiques communes. Enfin, si on veut le prendre de très très loin, de manière assez basique. Après, on descendra beaucoup plus en détail. Il y a beaucoup, bien sûr, il y a des différences, des spécificités. Mais voilà, c'est un cru qui a encore un très bon rapport de qualité-prix parce qu'il n'a pas le prix du prestige de Châteauneuf et avec des caractéristiques relativement proches, avec des blancs, avec des rouges et des cépages communs, avec aussi une histoire vieille, avec un oppidum, hein, ces villages fortifiés romains qui surplombaient le Rhône et qui étaient un point de surveillance du Rhône. Donc il y a un vieil historique. L'Irak a aussi une histoire un peu difficile parce qu'a priori c'est là où a commencé le phylloxéra, on parle des taches de Roquemort à l'époque, hein, Roquemort qui est un des lieux fortifiés de l'oppidium et de la région. Donc voilà, est-ce que ouais, on est dans les débuts du phylloxéra, ça commence malheureusement, en tout cas sa manifestation
les premières constatées
dans toute l'Europe constatée, ça commence à l'Irak. Bon, ça c'est pour l'histoire triste, mais du coup voilà, il y a de la profondeur de champ quand on parle de vin et quand on parle de l'Irak.
Deux fois millénaire.
Exactement.
Laurent, Valérie, l'Irak, vous en proposez à vos clients, vous en vendez, quel regard vous portez, même à titre personnel aussi, hein, de dégustateur sur cette appellation ?
Alors moi, tout à l'heure tu parlais de Laurent, mais moi je suis fan aussi de l'Irak, ouais, clairement. Je suis vraiment ravie d'en vendre, c'est vrai que ce sont des appellations vers lesquelles on emmène les clients, Parce qu'en fait, c'est vrai qu'en région parisienne, à part quelqu'un qui passe des vacances dans le coin là-bas, c'est assez méconnu en Île-de-France, je trouve, enfin, en tout cas à Paris. Donc je suis toujours très contente de pouvoir faire découvrir cette appellation, que ce soit en blanc ou en rouge d'ailleurs. Et à chaque fois, c'est vraiment, c'est un carton plein. C'est toujours un grand, grand plaisir pour les clients de découvrir des vins, effectivement, comme disait tout à l'heure un peu Patrice, mais avec un peu de provocation.
Provocatives.
C'est vrai que ça reste des vins vraiment qui sont vraiment très chouettes et avec des très bons rapports qualité-prix-plaisir qui pour moi sont complètement dingues. Donc c'est vrai qu'à beaucoup d'occasions j'essaye de les emmener sur des blancs, notamment, enfin je pense sur l'Irak blanc, parce qu'on pense souvent quand on est en Île-de-France à la Loire, on va penser à la Loire, on va penser à la Bourgogne, mais c'est vrai que le Rhône pour ça voilà. Donc l'Irak blanc, l'Irak rouge, oui, à fond, à fond.
Laurent, je te demande pas si t'as l'Irak.
Je fais un deuxième topo sur l'Irak. C'est l'histoire de Suze-la-Rousse, ça permet d'explorer le Rhône. Et puis finalement, de fil en aiguille, on découvre quelques domaines qu'on aime bien. Et bon, il se trouve que moi, je travaille avec deux domaines qui me proposent des cuvées en l'Irak au bar. Et que je les propose au verre et que ça plaît énormément. Et pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par mes petits camarades. C'est vrai qu'on a, un rapport qualité-prix qui est très très sympathique.
Grégory, Sergent, est-ce que vous retrouvez votre terroir dans cette petite description
succincte
et puis faite par des gens à Paris, à la capitale?
Il y a juste un point de détail, le phylloxera, c'est Peugeot. C'est pas Rocamore. Ah. Donc le début du phylloxera, c'est Peugeot. C'est à côté, mais c'est pas l'Irak. Alors après, effectivement, on est à proximité, c'est sûr. Hein, mais les premiers foyers du phylloxera, c'est Peugeot. Ah,
voilà. Étonnamment.
Mais oui, bien sûr, tout à fait. Donc j'ai écouté attentivement tout ce que vous avez dit. Et effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup de similitudes avec Châteauneuf, donc on pourra l'évoquer, ça c'est certain. Et j'ai souligné aussi le regain qu'il y a pour le blanc. Et effectivement, c'est une aussi de nos spécificités. Parce que pour le coup, on a vraiment un atypisme vis-à-vis de ça, puisqu'on a, contrairement à Châteauneuf, beaucoup plus de cépages en blanc à proposer qu'eux. Et de par notre positionnement sur la rive droite, on a quand même des atouts sur la fraîcheur notamment, avec de belles acidités et qui permet effectivement l'élaboration de jolis blancs. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que la rive droite est mieux que la rive gauche?
Alors, c'est purement, pour moi, c'est un concept qui est purement géographique, puisque par définition, la rive droite, c'est le levant, et la rive gauche, c'est le couchant, de manière générale. C'est vrai que quand on regarde bien le positionnement souvent des versants et la planimétrie des lieux, quand on regarde la configuration du Gard vis-à-vis du Vaucluse, par exemple, on est quand même beaucoup plus prédisposé à être orienté nord-nord-est que sud. Voilà. Et ensuite, on a une autre particularité, c'est que culturellement parlant, quand on regarde bien, c'est sur la rive droite qu'il y a le plus de zones boisées, et c'est là où c'est le plus accidenté. Donc au final, par définition, il y a quand même moins d'extension au niveau culturel. Et donc, sur un plan, on va dire, quand on regarde une carte aérienne vue de haut, on se rend bien compte que il y a un environnement qui est beaucoup plus boisé sur ce côté du Rhône. Voilà.
Est-ce que je me trompe ou... J'ai l'impression que vous listez des atouts, les versants qui sont plutôt côté est ou côté nord, le fait qu'il y ait de la végétation, qui étaient éventuellement des... J'allais pas dire des handicaps, mais presque dans le passé, et qui s'avèrent aujourd'hui être des atouts redoutables avec le réchauffement par rapport à peut-être une rive gauche qui souffre davantage d'une monoculture. C'est pas exactement une monoculture quand même, mais la vigne est très, très, très présente depuis très longtemps. Et puis des versants sud qui souffrent avec la sécheresse et le soleil.
C'est ça. Après, bon, ça, il y a. Il y a une histoire pour moi qui est socio-culturelle aussi, hein. Il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que c'est quand même par définition complètement d'actualité quand on regarde effectivement le problème du dérèglement climatique et les degrés d'alcool, notamment sur les vins sudistes. On a quand même, certes, des degrés, on ne va pas se mentir, hein, on est quand même une appellation quand même qui est sud, hein. Mais on a des pH et des acidités qui sont naturellement plus élevées, sans... Et c'est cette singularité, cet environnement qui donne cette spécificité-là. Et donc, du coup, ça se ressent sur la fraîcheur des vins. Mais des rouges aussi, pas que les blancs. Hein. Voilà.
On commence de notre côté justement par un blanc. Peut-être qu'on va déguster et dont on va dire deux mots. C'est le domaine Mabi. Alors, pour l'Irak, racontez-nous, les garçons, Laurent, Patrice, ça s'est passé un peu différemment d'habitude. Souvent, on reçoit des échantillons et puis on s'organise entre nous une dégustation à l'aveugle. Là, vous avez eu la chance de participer à un déjeuner vignerons, un déjeuner de presse, des vignerons étaient présents, un grand nombre de cuvées étaient proposées. Et en plus, je crois que la nourriture n'était pas trop mal.
Patrice, je te laisse parler. Non, c'est moi. Bon. Eh bien, oui, on était effectivement rive gauche, là, dans un très joli restaurant.
Rive gauche de la Seine. Hein.
Oui.
Avec une meilleure exposition.
Oui, on n'est pas allé jusque dans le Gard ni le Vaucluse. On était bien à Paris et on était dans un très joli restaurant qui s'appelle donc Bayetta, où nous avons pu à la fois, donc c'est un format assez classique dans les déjeuners presse, à savoir une table de dégustation, on attaque par ça, et on enchaîne sur un déjeuner où là on profite d'accords mets et vins avec les vins de l'appellation en question. Et là c'était, et ça permet aussi d'avoir des échanges avec les vignerons qui se trouvent à notre table et qui se trouvent aussi autour des tables de dégustation. Donc c'est vraiment un moment privilégié pour déguster les vins, pour mieux comprendre comment les vignerons travaillent, etc. Donc ça nous a beaucoup plu. Et l'échange avec Grégory aussi nous a beaucoup plu, puisqu'on l'a rencontré à cette occasion. Et ces vins qui donc étaient encore en phase de, on va dire, de gestation, puisqu'il nous avait fait l'honneur de nous apporter des vins des bouteilles directement tirées sur cuve, nous ont beaucoup séduit aussi. Hein.
Exactement. Et pendant le repas, on a eu l'occasion de déguster deux blancs. On peut parler des deux, un Château d'Aqueria qui était plutôt sur la légèreté, et puis le domaine Mabi, le Casta Diva 2021, qu'on a là dans les verres, qui est plutôt, encore une fois, un vin qui accompagne plutôt bien de la nourriture, et de la nourriture bistronomique et gastronomique.
Sur lequel il y a un gros, beau travail d'élevage, effectivement.
Un goût de bois.
Bah, disons que...
je le provoque un petit peu.
Oui, non, mais moi j'aime bien le bois. Il ne faut pas croire.
C'est un très beau vin. J'adore ces vins-là.
Mais
très beau vin.
Bon, après, là, il y a un travail. Ça va chercher effectivement quelque chose qui est assez séducteur, qui est quand même en même temps très gourmand. Hein. Il ne faut pas dire que c'est juste du bois. Il y a vraiment... Je suis peut-être celui du groupe qui est le moins séduit par ce profil de vin, mais j'aime beaucoup. Il a une aromatique, un fruit de folie, et derrière, on sent qu'il y a un élevage, qu'il est travaillé, et on se dit voilà, c'est peut-être d'ailleurs bien dommage d'ouvrir des bouteilles de 2021 dès maintenant.
C'est un assemblage de grenache. Et de grenache blanc donc, et de Viognier, et effectivement élevé en fût neuf. Grégory Sergent, ce vin, je suppose que vous le connaissez. Est-ce que c'est il y a une typicité du terroir, c'est une façon de faire du Lirac, c'est pas la seule, hein, du Lirac blanc.
Non, tout à fait, c'est pas la seule, effectivement. Après, ça montre un petit peu la diversité que l'on peut avoir. On travaille énormément sur des socles de cuvées qualitatives aussi, où on valorise des parcelles, notamment sur du patrimoine végétal âgé, hein, notamment sur des vieilles vignes, ou à défaut, faire des vins un peu plus sur la jeunesse, qu'on peut boire dans l'instantané, en fait, avec un côté fruité, effectivement, et séduisant. Mais ça montre aussi qu'on a la capacité, effectivement, de faire des vins qui peuvent être puissants, donc dits de garde, hein, avec pas mal de matière, quoi. Mais je pense que le fil conducteur de ces vins-là reste toujours, en fait, l'équilibre. C'est jamais des vins qui sont sur la lourdeur, quoi. On a quand même une belle diversité de cépages blancs qui permettent justement d'élaborer ces deux types, en fait, de vins, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un peu notre typicité et sur lesquels on essaye justement de travailler au quotidien, hein, toujours pour montrer qu'on fait pas que des vins faciles à boire, quoi. On peut aussi faire des vins de garde, voilà.
Quelle est la palette des cépages, là, puisqu'on est sur le blanc, qu'on a le droit d'utiliser quand on est à l'Irak pour faire du blanc?
Alors, grenache blanc, clairette blanche, bourboulin, pilpoul blanc, roussanne, marsanne, vironnier, bien évidemment. Et là, actuellement, on est un petit peu en train de travailler sur la réforme du cahier des charges, toujours en lien avec ce dérèglement climatique dont on parlait, pour essayer encore de faire entrer d'autres cépages ou de réactualiser des cépages qui étaient présents aussi dans l'appellation avant les diverses réformes que le cahier des charges a connues depuis sa création en 1947. Voilà.
Comme par exemple ?
Le macabeu.
Ouais.
Après, on aimerait intégrer le Picardin Château-Neuvois parce qu'il y a une proximité effectivement qui nous permet aussi, à la limite, de le revendiquer puisqu'on est quand même tout proche. Hein. Mais après, également, de mettre un peu en place quelques grilles puisqu'on en a quand même toujours dans les vieilles vignes, notamment, je pense, au Picpoul gris ou à la clairette rose qui ne sont malheureusement pas autorisées sur les blancs. Ouais. Et qu'on aimerait, en fait, ajouter. Donc, pourra toujours avoir une diversité et permettre aussi à certains terroirs de s'exprimer beaucoup mieux, notamment sur les calcaires, parce qu'il faut savoir qu'on a des calcaires aussi sur l'Irak, hein, donc des urgoniens et des baréniens, ou des calcaires blancs durs, hein, et c'est des terres à blanc, donc effectivement, certains cépages se portent très bien sur ce type de sol-là. Voilà.
La comparaison avec les voisins prestigieux, on a parlé de Châteauneuf, mais ce n'est pas les seuls. Il y a aussi Tavel qui est tout près. Et quand on regarde la liste des grands domaines de l'Irak, grand domaine, ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a un certain nombre de domaines de l'Irak qui sont des extensions de domaines de Châteauneuf, de domaines de Tavel. Comment ça se passe ? Il y a de la concurrence, mais il y a aussi une forme de camaraderie, puisque en fait beaucoup de domaines ont des terroirs, ont des vignes des deux côtés du Rhône et également en rosé sur l'appellation Tavel.
Oui, tout à fait. Bon, après c'est une particularité qui est liée aussi à la proximité des villages. Hein. C'est vrai qu'effectivement il y a beaucoup de Tavellois qui ont dû l'Irak et inversement. Et les Châteauneuvois depuis quelques années ont quand même beaucoup de regains pour l'appellation. Bon, ça veut dire qu'ils ont bon goût. Hein. Mais effectivement, non, mais c'est toujours intéressant pour nous parce que ça permet effectivement d'avoir une belle valorisation puisque c'est une appellation quand même qui est très porteuse. Et nous, on est ravis de voir qu'on s'intéresse à nous aussi. Donc ça veut dire qu'on a des atouts qui peuvent matcher. C'est plutôt un positif, quoi. Moi, je vois ça, ce côté-là. Mais effectivement, c'est vrai que de tradition, on a toujours été plus ou moins... on partage effectivement ces appellations communes. Alors moins pour les Gardois côté Vaucluse, mais quand même, quand on compare par rapport aux autres, effectivement, c'est quand même assez marqué. Voilà.
Ouais, le domaine Mabie qu'on est en train de déguster, ils sont basés à Tavel.
Oui, tout à fait. C'est un domaine historique à la base de Tavel, bien sûr. Après, effectivement, ils en ont beaucoup sur l'Irak également, mais bon, c'est le cas de beaucoup de domaines. Hein. Ils sont un petit peu dans cette qui sont un petit peu, enfin, dans le même cas, quoi. Hein.
On fait aussi du rosé à l'Irak ?
Alors on en fait, mais actuellement, pour vous donner un peu des chiffres, on est sur 86% de rouge, on est sur 12% de blanc et seulement 2% de rosé.
D'accord.
La tendance va diminuer de ce côté-là.
Bah, la tendance étant que aussi le marché consomme de plus en plus de blanc. Donc,
oui, c'est ça.
Il est important de se positionner sur le marché porteur, malgré tout. Et puis j'imagine que quand on est voisin de Tavel, c'est plus difficile d'être...
Exactement.
De se structurer immédiatement comme incarnant le rosé, quand on a le poids du nom. Je ne m'engage pas sur la qualité, je n'ai rien à dire là-dessus, mais sur le poids du nom de Tavel à côté, quoi.
Bien sûr, ils ont naturellement prérequis en tant que cru rosé de ce côté-là. Donc c'est vrai que pour nous, de toute façon... Mais c'est en même temps pas quelque chose qu'on recherche aujourd'hui dans nos objectifs. On sait qu'on a des atouts pour faire du blanc et on essaye justement de mettre en avant cette carte-là. Voilà. Donc dans l'avenir, ça sera, je pense, cette part va augmenter. Alors à quel détriment ? Est-ce que ce sera le rosé ? Est-ce que ça sera le rouge ? Je ne sais pas. Mais effectivement.
Mais ça suppose des questions de d'encépagement ou de greffe, etc. Parce que pour que ça évolue, le territoire est complètement occupé déjà sur la hausse et l'Irak en termes de plantation et d'encépagement.
Alors aujourd'hui, on a à peu près sur 715 hectares revendiqués. Il y a 1100 hectares à peu près sur l'appellation. Il n'y en a que 700 qui sont revendiqués. Donc ça peut être aussi sur ces 400 hectares, on va dire, un peu de reliquats qui ne sont pas revendiqués en appellation, que peuvent être développés ces objectifs-là, notamment pour les blancs, ou justement d'introduction de ces fameux cépages dont on parlait tout à l'heure dans le cadre de l'évolution du cahier des charges. Mais il y a aussi des revalorisations qui sont faites, des restructurations, pardon, qui sont faites au sein des vignobles. Je pense qu'il y a eu pour moi des choses qui ont été faites dans les années 70. Aujourd'hui, on se rend compte que ça correspond peut-être plus forcément à la climatologie actuelle. Je pense notamment à la Syrah ou autre, qui du coup, ça devient compliqué de travailler ces cépages-là chez nous. Et souvent, ça peut être l'occasion de développer des blancs sur ces parcelles-là. Voilà, qui peuvent être, ça peut être plus intéressant, quoi.
Quelles sont justement les grandes actions de l'appellation? J'imagine qu'il y a une dimension communication, on en fait un peu partie quelque part, mais on voit bien, nous, pour être un peu des observateurs basés à Paris, que l'Irak a gagné en notoriété hein, sur les dernières années. Ça me semble assez évident de le dire. Est-ce que voilà, le premier combat, c'est celui-là, se faire connaître? Est-ce que c'est l'export? Est-ce que déjà vous êtes bien identifié à l'export? Peut-être il y a des territoires plus favorables que d'autres. Est-ce que c'est sur les modes culturels? Donnez-nous un peu la feuille de route de l'Irak sur les prochaines années.
Alors après, effectivement, il y a un travail de notoriété, ça c'est évident. Donc nous, déjà de par la petitesse, si je puis dire, de l'appellation, on a déjà quand même,
c'est déjà de manière générale,
voilà, bien sûr. Mais après, je veux dire, il y a par rapport à nos voisins, Châteauneuf-Loire ou autres crus, notamment autour de Châteauneuf, on n'est pas forcément une AOC avec une surface plantée qui est importante. Donc déjà, il y a ça. Mais effectivement, depuis quelques années, on essaie de travailler justement sur le regain de cette notoriété-là. Et ça passe par la cohésion entre les différents producteurs de l'Irak. Et on a une belle dynamique, notamment des jeunes générations là qui arrivent actuellement ou qui sont en place. Et on a une émulsion collective donc qui se met en place. Enfin, effectivement, elle peut être insufflée par nos voisins. Châteauneuf-Loire a quand même une certaine éthique de la qualité. Et effectivement, qu'ils soient présents chez nous, ça donne un atout quand même pour aller dans ce sens-là. Mais je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience de valorisation de notre terroir et de nos spécificités. Donc ça passe par le culturel, comme vous l'avez souligné, mais également par des peut-être des projets ambitieux, comme justement j'évoquais du cahier des charges. La réforme du cahier des charges, c'est quelque chose sur lequel on aimerait bien évoluer pour faire face à demain et aussi pour vraiment donner une dimension environnemental aussi à notre projet. Il n'y a pas que le culturel, il y a aussi l'environnemental. Et ça, c'est un truc auquel on est très attaché. Voilà.
Environnemental, c'est-à-dire faire quelque chose, là, je pousse les curseurs volontairement loin, mais à la patrimoniaux.
Aller vers revendiquer du bio dans le cahier des charges de l'appellation, par exemple.
Et pas forcément sur ces critères-là, parce qu'il faut laisser un peu le libre cours, au choix, libre arbitre aux différents producteurs, mais on a cette spécificité dont je parlais tout à l'heure de zones boisées qui ceinturent l'appellation, et c'est ce qui fait aussi notre singularité. C'est un patrimoine dont on est conscient et qu'on aimerait justement qu'on aimerait mettre en avant. Donc il y a une charte agro-environnementale qui est en train d'être mise en place. On a des partenariats qui se font avec diverses sociétés qui permettent de planter des haies ou d'implanter des arbres sur certains endroits qui ont été complètement pelés par les plantations de vignes. Et justement, l'idée, c'est ça, c'est de préserver l'acquis, justement, et de pouvoir encore développer tout ça pour qu'on en fasse une force. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui fait notre particularité. C'est-à-dire que vous ne le retrouvez pas ailleurs, ça, sur la vallée du Rhône. Donc, sud, je parlais. On a vraiment cette une chance d'avoir, on a à peu près 2500 hectares de bois pour vous donner une idée. Si on prend toutes les communes, en fait, autour, donc des bois communaux, ouais. C'est quand on se rend bien compte que c'est deux fois plus que la surface plantée, ce qui est énorme, quoi.
Et vous comptez pas réduire ce ratio? Parce que le problème étant, enfin, la production n'est pas très grande, mais vous comptez pas prendre sur le bois pour planter
justement,
plus de vignes.
L'idée, c'est de préserver justement ces acquis-là. Aujourd'hui, c'est d'empêcher alors actuellement, il y a quand même, c'est pas le cas, hein, mais c'est d'empêcher des déboisements ou de défricher des parcelles, quoi, ou des choses comme ça.
Au contraire de planter voilà, des.
L'idée, c'est encore de de donner cette d'améliorer un petit peu ce paysage là. Donc on a quand même quelques zones qui ont été quand même bouleversées un peu par l'intensif, même si ça reste quand même assez isolé quoi. Mais l'idée c'est de toujours améliorer tout ça. Donc c'est des réservoirs de biodiversité certes, c'est pas que visuel en fait ou autre, hein. Mais il y a vraiment une prise de conscience, et je vous dis, la jeune génération actuellement est très attentive à ce genre de détails là, et c'est des choses sur lesquelles on travaille d'un commun accord quoi. Voilà.
J'évoquais l'export. Vous arrivez à vendre à l'étranger facilement. C'est quoi vos territoires?
Alors essentiellement, c'était un petit peu là où on était le plus représenté. Donc notamment sur tout ce qui est Benelux et US. Donc effectivement, on a quand même une spécificité à être représenté à l'export, et on souffrait justement de ce manque de notoriété à l'échelle nationale, parce que justement c'était l'export qui était privilégié. Mais aujourd'hui, on essaye justement de contrebalancer ça. Mais les marchés, effectivement, ça reste plus ou moins ces marchés-là, donc Belgique, hein, États-Unis, Royaume-Uni essentiellement.
Et ça, c'est juste en termes de chiffres, ça représente une part importante de la production qui part si loin.
Ça, c'est assez variable parce que ça dépend, entre guillemets. Enfin, il faut déjà savoir que l'appellation a très peu de volume en vrac. On fait essentiellement du conditionné. Donc 80% des volumes revendiqués aujourd'hui en Irak sont conditionnés bouteilles. Et on sait tous que les marchés nationaux souvent sont couverts aussi par le négoce. Hein, donc c'est compliqué, si vous voulez, quand on a peu de négoce représentés sur l'appellation, d'avoir une présence nationale. Donc forcément, c'est l'export qui est privilégié. Parce que, effectivement, c'est des marchés qui sont peut-être...
C'est paradoxal, un peu.
Oui, je sais, mais c'est un petit peu ce qui fait notre singularité. Voilà. Après, maintenant, ça a été un peu longtemps le cas, notamment en Rhône-Nord, pour des crus comme Cornas ou autres, qui étaient plus souvent représentés à l'export que sur le plan national. On est un petit peu dans cette logique-là. Donc aujourd'hui, on essaye justement de travailler un peu plus sur la France, quoi, et en développant justement notre présence sur le territoire national. Voilà.
On est passé au rouge, toujours à l'Irak évidemment, un rouge du domaine Giraud, qui est aussi un des vins que vous avez goûté lors de la dégustation.
On a choisi celui-là, on aurait pu en choisir d'autres. Enfin, moi, il y avait trois, en dehors du vin de Grégory, que malheureusement, qui était pour moi le très au-dessus des autres, mais qu'on peut pas encore, qui n'est pas encore vendable.
Il le pense vraiment, Grégory. Hein. C'est pas merci, pour vous cirer les pompes, c'est qu'il a dit, ah non, alors, mais il faut qu'on prenne le Clos du Jas. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de bouteille, donc il va falloir attendre.
Donc on n'a pas pu prendre le Clos du Jas. Donc voilà. Par défaut, non, je plaisante, c'est pas par défaut, c'est par choix aussi. Ouais. Mais il y avait trois, moi pour moi, en tout cas, trois vins qui étaient aussi. Tous étaient intéressants, mais trois qui étaient intéressants. Il y avait le Dormaine d'Arbousset qu'on a pu déguster en mangeant, qui était vraiment très très intéressant, notamment sur son parti très très gourmand, très très fruité. Il y avait le Domaine du Caudouli, mais je dirais dans un style très 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 charpenté, très tannique et très très gibier. Hein, pour c'est une blague, hein, mais très très dans un accompagnement de daube. Et puis un qui incarnait pour moi et pour nous un peu plus de fraîcheur et de légèreté et de buvabilité. C'est celui qu'on a dans l'un verre, qui est le Domaine Giraud, qui est un domaine de 35 hectares qui est principalement en Châteauneuf-du-Pape, avec différents terroirs en Châteauneuf-du-Pape, mais qui ont avec cette cuvée les Sables d'Arène. Donc il y a une partie de leur domaine qui est en Irak, et c'est ce qu'on a actuellement dans les verres. Donc les rouges, c'est 85-86% avec l'assemblage assez standard, je dirais, Grenache, Syrah, Mourvèdre, mais aussi avec la présence du Cinsault, qui est aussi, je pense, pour de manière générale, mais qui est un cépage assez intéressant pour amener un peu de tension et un peu de fraîcheur.
Valérie, que dirais-tu de ce vin?
Moi, je dirais déjà, pour ceux qui nous écoutent, qui ne voient pas le vin, déjà qu'il a une jolie robe. Là, on est sur quelque chose de plutôt rubis, avec légèrement vraiment violacé, mais vraiment, vraiment très, très léger. Et au nez, beaucoup de fruits. C'est un vrai plaisir. En bouche, c'est très bien équilibré. Enfin, c'est vraiment, pour moi, le genre de vin... On pourrait le boire même à l'apéritif, pour ceux qui aiment bien les vins rouges à l'apéro. Voilà, c'est vraiment un vin très agréable que j'imagine pour accorder avec plein de choses, en fait. Pas quelque chose, évidemment, pas trop puissant, évidemment. Mais franchement, ouais, c'est un vrai plaisir pour moi.
Et on est pourtant sur un classique, on est sur un GSM classique, hein, donc Grenache, Syrah, Mourvèdre, avec une dominante Grenache à 60% et 20 et 20 pour les deux autres. Mais voilà, dans un profil frais, quoi.
Beaucoup de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur.
On est dans la typicité du terroir pour toi, Laurent, dans ce domaine Giro, un classique, c'est facile à boire, c'est plein de fruits, ça éclate.
Rien à ajouter, effectivement, quelque chose de frais, léger. Ça ne correspond pas obligatoirement à ce que j'aime le plus à l'Irak, mais oui,
toi, tu
c'est très bien.
Quoi ? Plus de puissance ? Plus d'élevage ?
Je vais chercher un peu plus de puissance. Voilà.
C'était le profil frais, en tout cas, des vins qu'on a pu déguster sur les différentes cuvées de l'Irak.
Grégory, Sergent, vous qui êtes en train d'élaborer votre vin, bon là il est fait, mais vous avez lancé votre cave, votre domaine récemment. Quel est votre projet de vin, se conformer à une typicité du terroir et puis aussi chercher sa propre identité. Comment vous voyez vos prochaines cuvées?
Pour moi, le vin c'est du velours dans un gant de fer. En fait, je pars du principe qu'on est dans le sud, donc on fait quand même des vins qui ont quand même une certaine puissance. Mais moi, ce que je recherche essentiellement, c'est la finesse, quelque chose qui me plaît énormément. On a la chance d'avoir un panel de cépages qui permettent justement de travailler ces atouts-là. Moi, j'aime bien les vins quand même qui ont besoin de temps pour se mettre en place, parce que souvent, ils sont dégustés souvent jeunes. Côté prématuré, en fait, je trouve que même 18 mois, c'est quand même des fois un peu léger, quoi. Donc, en termes d'élevage, je parle. Et c'est vrai que si on veut élaborer quelque chose qui retrace un peu tous ces traits de caractère-là, il faut savoir prendre le temps pour les faire. Donc, c'est des sacrifices, certes, surtout quand on commence. Mais je considère que c'est des sacrifices payants. Voilà.
Ces vins, on les accorde avec quelle gastronomie? Spontanément, on dirait un barbecue, c'est formidable, ça explose, ça va accompagner une bonne viande grillée. Il y a d'autres...
Oui, c'est ça, oui, avec des viandes, effectivement, des viandes rouges, des viandes en sauce, mais on peut travailler aussi sur des mets un peu plus élaborés. On peut faire du chevreuil à la rôtissoire avec un petit peu de... ou même de la truffe ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose vraiment qui se marie très bien avec la cuisine fine, hein. Mais effectivement, on peut sur ce type de cuvée là quand vous dégustez des sables d'arène, autant le boire de manière un peu plus décontractée avec des choses un peu moins informelles. Voilà, tout à fait.
Et à l'occasion, enfin le domaine d'Arbousset qu'on avait dégusté, on l'avait dégusté sur un pigeon, et sur un pigeon ça marche bien.
Le pigeon était juste dingue.
Le pigeon était dingue. Ouais. Donc non, je dirais des volailles. Les fameuses volailles rouges. Non,
pas, c'était la pas un pigeon parisien. C'était pas un pigeon parisien. Il était juste cuit. Mais
tout chétif là.
Il était cuit. C'était juste. Enfin,
ouais, c'est magnifique.
Ouais, mais ça appelle donc des volailles rouges, quoi. C'est-à-dire pigeon, pintade. Ça marche bien, je pense, sur des volailles rouges.
La dinde, ouais, ça fait partie des volailles rouges ou pas?
Pintade. La dinde, non,
c'est blanc, ça. C'est blanc, ça. Ouais, parce que c'est un peu.
Non, enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est une viande un petit peu rosée, ouais, etc., qui est un peu plus charnue et un peu plus. Comment dire?
Pintade, c'est bien blanc quand même.
Oui, mais en termes de gustatif, moi, la pintade, le pigeon et la pintade m'évoquent ça.
Non, la pintade.
C'est un peu plus sanguin pour moi. C'est pas le sujet.
Si vous savez faire le pigeon, ce vin s'accordera parfaitement.
Ah oui, mais il faut vraiment savoir faire le pigeon, parce que ça peut être vite très sec. Et là, c'était juste waouh.
C'était magnifique.
Moi, j'ai une question. J'ai une question pour Grégory, évidemment. Valérie et moi, on a manifesté le fait qu'on était quand même des gros fans de l'Irak, et on se demandait comment on pouvait devenir un jaugeur... faire partie de la confrérie, la confrérie des jaugeurs.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jaugeurs?
Bah non, je laisse Grégory nous en parler.
Alors en fait, c'est un petit peu la spécificité de l'Irak. On a une tradition, donc on a une confrérie qu'on appelle effectivement les jaugeurs de l'Irak. Alors qu'est-ce que c'est? À l'époque de la côte du Rhône, quand on expédiait les vins sur les bateaux, pour être acheminés là où ils devaient atterrir, quoi. Il y avait une confrérie qui était chargée avec une baguette qu'on appelait la jauge, de mesurer en fait les contenants pour voir qui correspondait aux quantités qui étaient censées être exportées, donc que tout soit loyal et constant. Voilà. Et tout ça est resté. Aujourd'hui, d'ailleurs, on recrute chez les jaugeurs. Donc, si vous
avez des candidats là.
Si ça vous dit.
J'aimerais connaître les conditions, quoi.
Alors, moi personnellement, je ne suis pas jaugeur, mais quelque chose que je défends parce que je trouve que ça fait partie de notre patrimoine et aujourd'hui, on essaie justement de valoriser, de maintenir et on sensibilise un petit peu la jeune génération sur ça parce que c'est un petit peu notre ADN. Et aujourd'hui, il y a encore peu d'appellations qui peuvent se vanter. Il y a les chansonneries à Châteauneuf qui est connue, mais il y a Tavel aussi qui a également une confrérie, l'Irak. C'est un petit peu notre singularité. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est les crus les plus anciens? Je ne sais pas. Mais effectivement, c'est sympa. Donc, je vous dis, si vous êtes motivé, je peux en parler à la présidente.
Oui, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a des jaugeuses? Rassurez-nous, il y a des jaugeuses.
Depuis deux ans.
quand on voit le slogan, on a envie d'y aller, quoi.
C'est quoi?
Mais il faut y aller.
Bien buvant, bien mangeant et dans la joyeuse humeur.
Ouais, c'est bien.
Voilà.
Je lis aussi que les jaugeurs actuels ont une robe d'homme de loi du XVIIIe siècle, ornée des trois couleurs des vins de l'Irak. Ça doit être aussi joli à voir. On essaiera de poster des photos. Ça fait partie.
Quand on sera intronisé.
Écoute.
Mais on vous invitera en mai prochain. On fait notre grande fête des jaugeurs, donc on manquera pas de vous inviter. Donc ça nous fera plaisir si vous nous faisiez l'honneur d'être là.
Ah ben avec grand plaisir. Ça fait partie des traditions qu'il faut préserver dans la région, garder cette identité, ce patrimoine. Ça aussi, ça en fait partie.
Ben oui, bien sûr, c'est ce que je disais, en fait, c'est notre ADN, quoi. Donc il faut vraiment, pour moi, le mettre en avant, il faut le préserver et continuer à le développer, parce que malheureusement, souvent, les jaugeurs sont vieillissants, comme d'autres confréries, quoi, et on a besoin de la jeune génération un petit peu pour...
La jeune génération, là, je ne sais pas si on va être trop...
Avec Laurent et Valérie, c'est pas si jeune
que ça, malheureusement.
Et merci, les gars. Un peu de respect, là, quand
tout
même.
Tout dépend à quel âge sont les jaugeurs. S'ils partent les uns après les autres, peut-être que tu as quand même encore quelques années devant toi. Ne tombons pas dans le scabreux. Qu'est-ce que...
Ouais. Ça y est. Non, après... Je n'ai plus rien à dire.
Non, mais l'Irak, c'est vrai que c'est un cru qui est... C'est presque, désolé de dire ça comme ça, c'est presque le moins connu des crus du Rhône, finalement, par rapport à Châteauneuf.
Je te rassure, il y en a quand même, il y a quand même les plus récents qui ont quand même aussi du mal à trouver leur place, et l'Irak est placé.
Tout à fait, mais effectivement, il y a quand même, ce qui est intéressant à l'Irak, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de domaines moteurs. Il y a la Mordorée qui est quand même, le domaine de la Mordorée qui est quand même assez moteur, donc il y a quand même quelques chefs de file, il y en a d'autres, Mabi, Pédakier, etc. Mais voilà, il y a beaucoup de moteurs qui poussent cette appellation vers le haut. Et il faut des moteurs, des domaines un peu phares pour faire rayonner l'appellation.
Et puis c'est un peu la revanche du Gard sur le Vaucluse, soyons sérieux.
Oui.
Grégory, vous défendez
non,
le Gard.
Oui, mais c'est vrai, comme vous l'avez dit, on a quand même de belles références chez nous aussi, donc il ne faut pas non plus se mentir au palais du domaine de la Mordorée. Donc c'est un domaine en plus qui m'est cher, puisque c'est Christophe Delorme qui m'a formé, hein, donc c'est un vigneron qui m'a énormément apporté, et lui comme d'autres, il y a beaucoup de domaines quand même qui ont déjà un historique qualitatif Souvent, on est moins nombreux parce que déjà, par définition, il n'y a que trois crus, bientôt trois crus, parce que je compte l'Audun avec, qui est bientôt cru aussi. Mmh. Mais il y a trois crus dans le Gard par rapport au Vaucluse. Et c'est vrai qu'effectivement, déjà, par ce calcul simple et basique, on se rend bien compte qu'effectivement, on est beaucoup moins nombreux dans la diversité. Mais n'en dépêche le fait qu'on a quand même quelques belles références chez nous aussi. Et c'est bien de les avoir... Des avoirs sur l'Irak, on parlait de la Mordorée, mais pas que, hein, effectivement, il y en a plein d'autres. Hein.
Oui, et puis
des jeunes qui comptent aussi. Quoi. Voilà.
Ouais, pour parler de jeunes, j'ai envie de citer Vincent Doma au Clos des Sérènes. On a eu la chance de déguster ça quand on était dans le coin cet été, Laurent, mon cher ami.
Tout à fait.
Qui est en plus d'être un vigneron talentueux et une personne adorable. et qui fait des très jolis vins, lui aussi à l'Irak. Et je crois bien qu'il a appris aussi du côté, dans un domaine du côté Vaucluse. Tout ça se répond. Il y a une saine concurrence. Et une belle émulation. Mais ce qui est intéressant avec cette rive droite, c'est qu'on a l'impression que tout reste à écrire, en fait. Alors, l'Irak est installé depuis longtemps, mais on parle du fait qu'elle en a encore sous le pied, si je ose m'exprimer ainsi, en termes de notoriété. L'Audin va passer cru. Il y a un grand nombre de vignerons qui font des beaux vins. Il y a beaucoup de vins qui sont en bio, qui ont franchi ce cap. Donc, il y a... C'est pas, on va pas dire que le Vaucluse a déjà tout dit, mais du côté du Gard, la marge de progression, elle est immense.
Oui, c'est évident. Mais effectivement, mais après, comme je vous le disais, on a nos spécificités aussi aujourd'hui qu'on revendique haut et fort. Et effectivement, le bio, pourquoi pas, ça peut être effectivement quelque chose qui peut, de par cet environnement-là, être peut-être plus facile à être abordé, parce que c'est vrai que ça parle plus ça coule plus de sources, si je puis dire, hein, de par ces spécificités-là. Maintenant, après, on a effectivement encore à faire. Tout à l'heure, on parlait des personnes qui représentent l'appellation. Bon, nous, par exemple, je prends le cas de l'Irak. Aujourd'hui, on est 62 caves référentes. C'est quand on regarde par rapport à Châteauneuf, c'est très peu. Donc, effectivement, alors certes, là, on n'a pas les mêmes surfaces plantées, mais il y a encore un potentiel de diversité et on a encore de la place en fait pour ceux qui veulent donner qui veulent écrire les belles histoires de à venir de l'Irak. Voilà, donc effectivement on a, je crois que...
Puis j'imagine que l'hectare est moins cher dans le coin.
Ah oui, la question classique.
Je lançais la question
de
Laurent.
Merci Patrice. La question classique de savoir combien coûte un hectare en moyenne à l'Irak.
Vous voulez la réponse ?
Bah, plutôt. Ouais,
allez, oui, éventuellement, si c'est pas une fourchette, ça peut être un râteau.
Plutôt qu'une pirouette, oui.
Effectivement. Alors après, c'est toujours pareil, quoi. Moi, je trouve un peu dommage qu'il y ait un cours entre guillemets de. Quand on regarde les terroirs qu'on a et effectivement le prix auquel ça peut tourner aujourd'hui sur l'Irak, on est autour de 40, entre 40 et 45 000 euros pour un hectare. Mais quand on regarde la particularité de la singularité de nos terroirs, je trouve que c'est pas cher payé, quoi. Je
pense non, mais c'était rappel. On parlait des vocations pour les installations. Ça peut être un levier supplémentaire.
Non, ouais. Moi, je suis d'autant plus familier de ça parce que je me suis installé avec pas grand chose, hein, donc il a fallu se battre pour pouvoir entre guillemets avoir des terres sur l'appellation. Alors je vais pas vous mentir, c'est compliqué parce qu'il y a une pression foncière qui est très importante.
Et oui.
Et peut-être plus d'ailleurs même que dans certains crus du Vaucluse, parce que le problème c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a 700 et quelques hectares de revendiqués. Alors, le problème c'est que quand on a enlevé tous les gros, il y a beaucoup de place pour les petits, quoi. Donc pour se faire une place là-dedans, c'est pas évident, et en plus ça sur des vignes qualitatives, donc c'est une arène en fait tout ça. Donc moi c'est un sujet auquel je suis d'autant plus attentif parce que je suis passé par là. Voilà.
Pour rappel, Grégory, un hectare en Châteauneuf-du-Pape, juste en face, ça...
Ouais, aujourd'hui, on a plus de 500 000 euros l'hectare. Hein.
Ouais. C'est quand même un rapport de
1 à 10. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de le préciser. Ouais.
Et la pression foncière dont vous parlez, parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que vous n'avez pas l'intention de faire gagner la vigne sur le boisé, mais il y a aussi une pression sur la vigne. Est-ce qu'on arrache des vignes aujourd'hui à l'Irak pour construire des villas, des résidences, des lotissements, horreur ?
Alors malheureusement, c'est un peu le propre de j'ai envie de dire de nos communes, maintenant notamment dans le sud de la France, les zones lotissées, villages dortoirs, hein, gagnent en importance. Et bon, malheureusement, ça se fait souvent au détriment de la vigne. Mais quelquefois, ça peut arriver aussi des bois. Hein. Je lance un message en l'air aux élus. Hein, voilà.
Et mais c'est vrai que la responsabilité des élus, elle est grande là dans ce domaine, parce que c'est eux qui attribuent les permis de construire.
Après, moi, personnellement, qui viens des Costières de Nîmes, je pense que là-bas, c'est beaucoup plus marqué. Donc, si je compare par rapport à ma région d'origine, enfin, à mon appellation d'origine et aujourd'hui où je suis implanté, il y a quand même effectivement moins de terres gagnées par les habitations ou projets divers et variés. que dans le sud du Gard, par exemple, où là, c'est quand même beaucoup plus, plus important. Mais effectivement, c'est pour moi aussi lié à la valorisation qu'on fait de la vigne. Dans les costières, ça coûte moins cher qu'à l'Irak ou Tavel, par exemple. Donc effectivement, c'est logique aussi.
Au fond, travailler sur la qualité des vins, comme vous le faites, la valorisation de ce terroir, c'est aussi défendre l'existence, la présence, l'ampleur que peut avoir le vin dans la région, à l'Irak et ailleurs d'ailleurs.
Ben, de toute façon, oui. Alors après, moi personnellement, je pense qu'aujourd'hui, l'extension même de l'urbanisme, on ne peut pas faire grand-chose parce que vous ne pouvez pas obliger à quelqu'un de pas spéculer sur de la vigne, enfin, sur de la culture en général. En revanche, ce qu'on peut préserver, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les acquis. Donc, nos valeurs, autour de l'environnement, des zones boisées dont je parlais, tout ça, c'est des choses sur lesquelles, par contre, il faut agir. Et ça, à mon sens, je trouve que c'est important. Parce que c'est pas que notre patrimoine à nous, c'est aussi pour nos enfants, les générations futures. C'est des choses qu'il faut préserver.
Ben merci Grégory Sergent d'avoir répondu à nos questions. Et puis merci pour ce travail que vous faites au sein de l'appellation l'Irak, de ces vins que vous défendez, que nous on défendra toujours ici depuis le premier jour. Et on va continuer. C'est des vins qui nous plaisent. C'est un terroir qui parle à tout un chacun, que beaucoup traversent sans le regarder, parce que c'est quand même aussi la route des vacances. Hein. Certains s'y arrêtent et puis certains traversent pour descendre un peu plus bas sur la Méditerranée. Arrêtez-vous à Tavel, c'est joli, à l'Irak, c'est très beau. Saint-Laurent-des-Arbres, petit village très charmant également. Du côté rive droite, de la rive gauche, vous pouvez aller y faire un tour, c'est joli aussi. Il paraît qu'Avignon, c'est une ville charmante. Mais il n'y a pas que, ça, il y a aussi un territoire qui est parfois un peu plus sauvage, ce ne sera pas le terme parce que c'est quand même aussi très construit, mais voilà, un peu moins gagné par le tourisme et des zones vallonnées, on adore y faire du vélo par exemple, je recommande, c'est sublime. Moi j'aime beaucoup ce coin et puis les vins sont là. L'Irak, c'est pas nouveau qu'on fait du vin. Il y a plus de 2000 ans, un cru depuis 47, et qui gagne en notoriété et qui reste, sans être trivial, mais un rapport qualité, prix, plaisir, assez imbattable en Rhône-Sud, hein, on peut le dire. Merci infiniment, Grégory Sergent. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait oublié de dire, dont vous aviez envie de parler et qu'on n'aurait pas du tout évoquées?
Je crois que vous avez fait un beau portrait de l'appellation, donc je valide.
Parfait, on est ravis. Merci beaucoup pour votre temps et continuez bien ce travail. On est impatients de déguster les premières cuvées du Clos du Jas.
Bah oui, clairement.
Alors, ça sera disponible l'an prochain, en février.
Au mois de mai, quand on va passer, ça sera parfait. Alors.
C'est ça. Ah là, ils seront à point.
On va commencer à coudre nos jolis costumes de jaugeurs.
Non, mais c'est noté. Je ne manquerai pas de vous faire passer cette invitation.
Merci. Un grand plaisir. Merci beaucoup, Grégory. À bientôt.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Merci.
Merci.
Ben voilà, on affiche une nouvelle commune, une nouvelle appellation à notre carte de France des terroirs. Et puis,
et pour l'anecdote, donc, ce que faisait remarquer Laurent, effectivement, c'est que la différence entre les crues et les côtes du Rhône et des côtes du Rhône village, c'est la bouteille syndicale.
On n'a pas parlé de la bouteille, c'est un syndical, effectivement.
Ben alors, vas-y, dis un mot de cette bouteille de l'Irak qui est marquée. Ben,
qui, comme toutes les bouteilles de cru, enfin, en général, les bouteilles de cru, ou plutôt les vignerons d'un cru du Rhône, se mettent d'accord sur le format d'une bouteille dite syndicale. Et là, on a le logo de l'appellation l'Irak. Et
le blason, pourrais-tu dire.
Oui, le blason.
Qu'on retrouve assez facilement et spontanément sur les bouteilles de Châteauneuf-du-Pape.
Châteauneuf, tout le monde est habitué à voir cette mitre.
Non, mais sur la bouteille syndicale.
mitre et ses clés, symbole papeau ou symbole papal. Bien sûr, l'Irak, il s'agit d'une tour.
J'imagine que c'est la tour de Roquemort. On n'a pas creusé ce point, mais je pense que c'est la tour de Roquemort.
On parle d'un blason qui est vraiment gravé dans la bouteille, soufflé dans le verre de la bouteille. Ouais. C'est pas seulement inscrit sur l'étiquette. Voilà. Ce qu'il nous manquait de dire de l'Irak, ça y est, on l'a dit.
Voilà. Facilement merci. Identifiable.
Merci à vous. On va rappeler simplement les vins. Le blanc, c'était un domaine Mabi. Je ne sais pas s'il y a un nom de cuvée.
Castadiva.
Castadiva. Et un rouge qui était du domaine Giraud. Et la cuvée.
Les sables
d'Arène.
D'Arène, exactement.
Me semble-t-il. Deux très jolis vins de l'Irak qui donnent envie d'y retourner. Merci à tous. Merci Laurent. Merci Valérie. Merci Patrice. Et merci à vous
qui
nous écoutez, fidèles auditeurs. Voilà, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de La Terre à Boire. À bientôt. Ciao. Nothing in life but you. I never regret the years I'm giving. They're easy to give. When you're in love, I'm happy to do whatever I do for you. Darling, it's